Bienvenue sur Sois-mère et tais-toi, le podcast qui dégomme les idées reçues et les injonctions sur la vie de maman. Je m'appelle Adèle, je suis moi-même maman de 4 enfants et je suis aussi coach des mamans surchargées, c'est-à-dire que je les aide à alléger leur quotidien, faire de la place dans leur agenda et mettre plus de fun dans leur vie. Toutes les semaines, je publie un épisode avec un invité ou en solo dans lequel je te partage toutes mes connaissances de coach, mais aussi ma vie de maman. Avec ce podcast, je veux t'aider à comprendre ce qui surcharge ton agenda, ce qui compte pour toi, ce qui te donne l'impression de courir sans arrêt, sans jamais réussir à te poser ou à même prendre du temps pour toi. Et je te partage les clés pour transformer ta vie comme j'ai transformé la mienne, celle de ma famille et celle de mes clientes. Tu peux me retrouver sur Instagram, @adèlesaintgier, mais aussi sur Telegram, c'est mon nouveau chouchou, pour avoir mon actu toute fraîche, connaître mes programmes d'accompagnement ou juste entrer dans mon quotidien de maman, mais aussi de femme, d'amis, de sportive, de pédagogue et de tous les sujets qui me passionnent et qui méritent tous une place dans ma vie. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui est créer sa chance. Parce que pour moi, la chance, ça n'attend pas. Ça ne t'arrive pas sur le coin du nez comme ça tout seul. Moi, je suis intimement convaincue pour l'avoir vécu pour moi-même que la chance, ça se crée. On peut créer notre propre chance et je vais t'expliquer comment moi j'ai fait. Et l'idée de cet épisode m'est venue parce que souvent, on me dit « t'as de la chance ». Et la dernière en date qui m'a dit « t'as de la chance », elle m'a pas dit « t'as de la chance », elle m'a dit « c'est facile pour toi ». Et ça, c'est un truc qu'elle me dit souvent. Et il se trouve que c'est ma maman. Et pour moi, le moment le plus difficile de ma vie, le plus courageux, et celui qui a tout changé dans ma vie, c'est justement quand j'ai quitté ma maman, parce qu'avec elle, c'était trop difficile. Et il faut savoir que quand j'ai fait ça, j'avais 11 ans. Je partais pour l'inconnu total en termes de région, de scolarité, je faisais 500 km. J'allais vivre chez mon papa. Et la seule chose que je connaissais dans cette nouvelle vie, c'était mon papa, en sachant que ça faisait plusieurs années, donc 7 ans, que je le voyais très rarement. Donc même la vie avec mon papa, finalement, je ne la connaissais pas parce que j'avais expérimenté jusqu'à mes 2 ans et demi, 3 ans, mais plus après. Donc vraiment, j'ai décidé moi toute seule, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon papa et je lui ai dit « il faut que tu viennes me chercher là, ça ne va plus du tout », avant d'entrer en 6e. Et de l'entendre, elle, après, me dire « c'est facile pour toi », c'est là que je me suis dit « mais en fait, y a plein de gens qui, entre guillemets, pas jalouses un petit peu, mais si, c'est ça. Je le fais aussi probablement, hein, c'est pas du tout une critique, mais je pense que ça m'arrive aussi, et ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup moins maintenant parce que j'ai travaillé sur moi, mais ça m'arrive souvent, ça nous arrive à tous de dire « oh là là, il a trop de chance d'avoir ci, d'avoir ça ». Et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas facile. Mais alors, c'est pas facile du tout, du tout, du tout. La bonne nouvelle, par contre, c'est que c'est pas de la chance. Et que tu vas pouvoir l'obtenir, toi aussi. Et donc, je vais te raconter tout ce qui, dans ma vie, pourrait passer pour de la chance, je pense. Et certaines personnes m'ont dit, des fois, sur certains items, t'as de la chance. Me le disent encore régulièrement. Et sauf qu'en fait, je suis convaincue que ce n'est pas de la chance. J'ai fait des choix dans toute ma vie, des choix les plus arbitraires aux choix les plus réfléchis, qui m'ont amenée vers la vie que j'ai maintenant. Et le premier choix, si je remonte au plus loin dont je me souvienne, le premier choix qui a changé toute ma vie, c'était ça. Ça a été de changer de région, de changer de parents et de déménager à l'aube de mes 11 ans. Et si je reprends toute ma vie, tous mes items de vie, si je reprends le côté pro par exemple, je n'ai pas de la chance d'avoir ce métier de rêve, ce nouveau métier que j'adore, parce que je l'ai créé toute pièce. J'ai travaillé en sous-marin pendant une bonne année où personne ne me voyait, où j'avais très peu de soutien, pendant des heures, des jours et des semaines, les gens ne me rigolaient pas au nez, mais presque. On me disait « Ah, oh, c'est un hobby, c'est rigolo ce que tu fais », mais ça s'arrêtait là, quoi. Si je reprends les autres boulots que j'ai faits dans ma vie, parce qu'avant j'étais sage-femme, quand j'ai fait mes études, j'ai bossé en plus de mes études pour gagner un peu d'argent parce que ma mère refusait de me donner de l'argent. Et par respect pour mon papa, comme je n'arrivais pas à obtenir cet argent de ma maman, ben je l'ai gagné moi-même. Il faut savoir que je faisais 50 heures d'études par semaine à peu près, entre 50 et 60 heures, et que je travaillais en plus de ça. Les week-ends, les vacances, les jours fériés, je faisais des jours et des nuits, puisqu'à l'époque, j'étais étudiante sage-femme, donc que je sois auxiliaire puère ou aide-soignante, je bossais de jour et de nuit. J'ai fait un remplacement de troisième année, donc j'étais pas encore diplômée, et pour pouvoir me rapprocher de mon amoureux de l'époque, qui est maintenant mon mari, je suis venue faire ce remplacement dans une ville que je ne connaissais pas du tout, dans une maternité que je ne connaissais pas. Bon, en plus, on m'a parachutée en salle d'accouchement, ce qui était quand même très intéressant, mais j'étais pas diplômée à l'époque. Et je me suis lancée là-dedans en me disant, bon, bah allez, on essaye, advienne que pourra, de toute façon, j'ai besoin de formation et j'ai besoin de gagner des sous, donc on essaye. Franchement, quand j'y repense, ce remplaçant était vraiment pas confortable. Je me suis retrouvée dans des situations de professionnels diplômés, alors que je l'étais pas. Il me manquait quand même une année. J'étais en plus très jeune. Alors, j'ai appris plein de choses. Ça, c'est sûr. Mais ça n'a pas été... sur le coup, c'était quand même un petit peu douloureux. En plus, c'était un poste uniquement de nuit à l'époque. J'ai travaillé comme sage-femme diplômée. J'ai ensuite accepté de reprendre un... J'ai choisi de reprendre un cabinet libéral. Je me suis décidée en 48 heures, quand même, parce que j'avais une deadline. C'était soit je décidais en 48 heures de le reprendre, soit je ne le reprenais pas. Donc je me suis jetée un peu dans la gueule du loup, dans un truc que, pareil, je connaissais assez peu. Je connaissais mon travail, mais pas du tout l'exercice libéral. Quand au bout d'un an, j'ai décidé, réalisé que l'hôpital n'était plus fait pour moi, j'aurais pu garder encore mon poste à l'hôpital pendant 2 ans, puisque j'avais le droit légalement à 3 années de congé sabbatique. Et le problème, enfin, ça aurait pu être confortable dans l'idée d'une sécurité, puisqu'après je pouvais réintégrer mon poste quand je voulais. J'étais fonctionnaire des hospices civils de Lyon à l'époque, donc j'avais le droit de réintégrer mon poste après. Mais moralement, c'était difficile pour moi, puisque je bloquais un poste qui ne pouvait ne pas être remplacé et laisser d'autres sages-femmes à ma place contractuelles au lieu d'être embauchées. Donc, pareil, je me suis jetée à l'eau et j'ai démissionné de mon poste de fonctionnaire des hôpitaux. La surveillante que j'ai appelée, quand je lui ai dit « je démissionne », elle m'a dit « mais t'es complètement folle. Pourquoi tu fais ça? Garde ton poste, on ne sait jamais. » Et je lui ai dit « mais non, mais je sais que je ne reviendrai pas. Donc, ça ne sert à rien de bloquer mon poste. Je vais démissionner. Je t'envoie ma lettre. » Ça fait partie des choses que souvent les gens me regardaient comme une uberlu, mais ça fait partie des choix que j'ai faits dans ma vie et qui me semblaient alignés avec moi et importants à faire. Donc je n'ai pas de la chance d'avoir ce boulot magnifique, j'ai tout fait pour, j'ai tout créé pour, et j'ai su saisir des opportunités certes, mais j'ai beaucoup donné de ma personne. Je n'ai pas de la chance non plus d'avoir une relation magnifique avec mes enfants. C'est pas de la chance s'ils travaillent bien à l'école, c'est pas de la chance si je n'ai pas besoin de gérer leur consommation d'écran et que ça se passe bien. J'ai mis en place des principes éducatifs nouveaux. Je me suis souvent battue contre le reste du monde pour ça. Il m'arrive d'être en désaccord avec beaucoup de monde et même parfois encore avec mon conjoint. J'ai créé ça, j'ai créé cette famille et ça a été, et ça l'est encore parfois, très difficile de... vendre l'éducation bienveillante à mon entourage. Et c'est ça qui donne ces résultats-là. C'est ça qui fait que ma famille est épanouie, que j'ai une incroyablement belle relation avec mes ados, qui ont pourtant entre 13 et 16 ans. Et on sait que parfois, c'est difficile avec ces âges-là. Et chez nous, ça se passe extraordinairement bien parce qu'on a tout fait pour ça. Alors, je ne suis pas la pièce unique, hein. Chaque personne a son libre arbitre et chacun travaille à ce que cette famille fonctionne de la meilleure façon possible. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'ai mis tout mon courage et toute mon énergie dans cette optique-là et que ça a fini par payer. On me dit aussi souvent que j'ai la chance d'avoir un mari merveilleux. Alors certes, il est extraordinaire et on pourrait dire que j'ai eu la chance de le rencontrer, de le trouver sur ma route. Mais d'une, l'épouser, être avec lui, ça m'a quand même demandé de quitter à l'époque un pervers narcissique. Et ça s'est pas fait sans mal. Ça a été un épisode assez, alors finalement assez comique de ma vie, mais quand même assez chaotique. Donc déjà ça, il a fallu le faire pour être libre et pour pouvoir vivre avec lui ensuite et puis l'épouser. C'est pas forcément facile de vivre à ses côtés. Certes, c'est un homme extraordinaire et il m'apporte énormément de choses, mais il a quand même un travail extrêmement prenant. Travail que, soit dit en passant, moi, au départ, quand j'étais étudiante sage-femme, j'avais dit à toutes mes copines de promo, si vous en retrouvez sur votre route, elles peuvent en attester, j'avais dit, moi, je ne veux surtout pas d'un médecin. Surtout pas, je les vois tous les jours bosser comme des dingues, et moi, je ne veux pas de cette vie-là. Bon, bah, il se trouve que j'ai rencontré un chirurgien viscéral qui fait 70 heures semaine, et parfois plus. Et franchement, accepter cette contrainte-là, c'est pas tous les jours évident. Gérer ses astreintes avec cet état d'esprit qu'il est obligé d'avoir, c'est-à-dire d'être à moitié à la maison, à moitié là-bas, c'est loin d'être simple. Ne pas avoir de plan B, parce que je ne peux pas compter sur lui la plupart du temps, encore moins quand il est au bloc, les mains dans son patient, c'est loin d'être facile. C'est des sacrifices, c'est des contraintes de tous les jours que j'accepte, que je vis avec, et j'ai tout mis en place pour que ça se passe bien, mais c'est pas facile. Ce n'est pas de la chance, cette vie qu'on a tous les deux, c'est vraiment un travail pas de concession, mais de vivre avec les contraintes de chacun, d'avoir aussi choisi une grande famille et les contraintes qui vont avec. Ça m'a demandé de demander de l'aide. Alors certes, j'ai eu de la chance, entre guillemets. On pourrait dire que j'ai eu de la chance d'avoir de l'aide, mais d'une, cette aide, je l'ai demandée. J'ai dû faire des concessions pour cette aide-là. Accepter certaines situations qui n'étaient pas toujours confortables, pas toujours agréables. Donc j'ai tout donné pour que ça fonctionne le mieux possible. Ça m'arrive aussi qu'on me dise « t'as trop de la chance d'avoir cette activité sportive, d'avoir ce niveau, je fais de la pole dance moi depuis 5 ans maintenant, d'avoir ce niveau de pole dance avancé à plus de 40 ans. Sauf que si on fait le débriefing arrière, j'ai quand même commencé la pole à presque 40 ans, ce qui est pas fréquent. Alors, c'est pas si rare que ça, mais c'est pas facile de commencer un sport aussi exigeant, alors que j'étais pas sportive pour un sou, hein. J'ai vraiment un passé de quasiment non sportive. Donc c'était quand même pas si facile au départ de déjà choisir ce sport, de le découvrir et puis de m'y mettre à fond. J'ai investi ensuite énormément de temps et de l'argent aussi, parce que malheureusement, enfin c'est comme ça, hein, ça fait partie du deal. La pole dance, c'est un sport qui est très onéreux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la formation des profs de pole coûte très cher. Et ensuite parce que c'est un sport où on ne peut pas être nombreux dans une même salle. Puisque on prend beaucoup de place et on prend une barre. Donc c'est un sport qui est assez onéreux. Donc j'ai quand même investi énormément d'argent pour mes entraînements, énormément de temps. J'ai su choisir aussi les bonnes personnes. J'ai choisi ma prof de pole qui est une prof extraordinaire. J'aurais pu rester dans le studio qui était plus proche et plus facile d'accès de chez moi. Mais j'ai préféré la suivre un peu plus loin, un peu moins pratique on va dire pour moi. Parce que je savais que c'est une prof extraordinaire et qu'avec elle j'allais continuer à apprendre. J'ai aussi su rebondir après deux blessures. Je me suis rompu un ligament croisé et claqué un ischio-jambier. Et à chaque fois, ça m'a demandé de m'arrêter, de me reposer, alors que je déteste arrêter la pole. Ça m'a demandé de faire de la kiné, de faire des exercices quotidiens. Ça m'a demandé de m'investir dans ma réparation, dans ma convalescence. Ça m'a demandé d'être vraiment courageuse, d'y croire, notamment encore 3 mois après, alors que j'avais tout mis en place pour que ça se répare bien, ben je me suis rendu compte que j'avais une cicatrice fibreuse qui n'était pas bien réparée et qu'il fallait encore un peu de courage, encore un peu donné de ma personne pour cicatriser cette blessure et vraiment finir par retrouver mon niveau de pôle tel qu'il était avant ma blessure. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai donné. C'est ce résultat-là. Je suis effectivement très fière d'être dans un cours de pôle avancé, même si je n'ai pas tout à fait le niveau d'avancé, mais ce n'est pas très grave. Je suis très fière d'être dans ce niveau-là et de pouvoir m'inscrire à une compétition de pôle amateur cette année, parce que ça y est, c'est fait. Vous aurez bientôt les images au mois de mai. Je suis hyper fière d'avoir fait ça, mais c'est moi qui l'ai fait. Alors, j'ai eu une prof extraordinaire, j'ai pu mettre du temps, enfin j'ai dégrévé du temps et j'ai mis de l'argent là-dedans. Mais tout ça, c'est moi qui l'ai choisi en fait. Tous ces items-là, tout ce qui a fait que je suis arrivée à ce résultat-là, c'est grâce à moi. Alors tu vas peut-être avoir l'impression que je me jette des fleurs, mais ça c'est une technique que j'enseigne beaucoup à mes clientes et que je te conseille, c'est justement d'aller pointer du doigt tous tes courages, tout ce que tu es capable de faire en tant que femme, en tant que maman, en tant que professionnelle, tout ce qui t'a amené à ce résultat-là. Alors, quand on fait ça, ce qui peut parfois être désagréable, c'est qu'on se rend compte aussi de nos erreurs. Mais nos erreurs, ça nous permet d'avancer et justement de corriger le tir et de se dire, bon, bah là, j'aurais pu faire autrement et comment je peux faire autrement. Mais aller pointer du doigt tes réussites, c'est pas de la prétention. Je vais pas aller. C'est pas parce qu'aujourd'hui je te dis j'ai fait tout ça et je suis très fière que je vais aller écraser quelqu'un d'autre en lui disant t'es archi nul. Mais bien au contraire. Je vais même au contraire en profiter pour te dire toi aussi tu es capable de faire tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien de plus que. Je suis une femme lambda, je n'ai rien de plus que n'importe qui. Tout le monde peut faire ça. Donc tout le monde peut avoir ce courage-là. Et pour finir, je te dirais que je n'ai pas de la chance d'avoir évité le burn-out parental. Alors je ne sais pas bien si je l'ai évité ou si j'y suis allée et que j'ai réussi à guérir. Parce que j'étais vraiment pas bien, donc probablement, en tout cas très proche du burn-out. Avoir réussi à sortir de cette roue du hamster dans laquelle je m'étais enfermée malheureusement toute seule, hein, ça fait partie des erreurs que j'ai faites. Pour réussir à faire ça, j'ai investi beaucoup dans des coachings, alors parfois peu ou moyennement, parfois beaucoup d'argent. Ce qui est sûr, c'est que j'ai aussi investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans ces coachings. Qui m'ont permis de gagner du temps dans mes transformations, surtout mes transformations très récentes. Mais je suis quand même, c'est moi le moteur principal de tout ce que j'ai obtenu grâce à ces coachings, le fait d'être allée les chercher, le fait de les avoir fait, le fait d'avoir tout donné pour que ça réussisse. Souvent, je te dis que j'invente rien dans mon travail. Ce que j'utilise pour te coacher existe déjà partout, accessible parfois gratuitement, parfois avec juste le prix d'un livre, par exemple. Moi, ce que je vais t'apporter, c'est mon expertise, c'est surtout une certaine hiérarchie dans les exercices. Je vais te donner les exercices qui sont bons pour toi à l'instant T et tu vas pas avoir besoin de farfouiller parmi tous les exercices et de tous les tester avant de trouver celui qui est bon. Je t'apporte aussi du soutien sans faille du début à la fin et beaucoup d'aide dans la gestion émotionnelle. Je fais 50% du taf, mais les 50% restants, c'est toi qui les fais. Et si le résultat est extraordinaire, le moment que tu passes n'est pas toujours confortable. Pour te donner un exemple, une de mes clientes du programme Enjoy Mom Life que j'ai vue hier en visio, je lui ai dit à la fin de la visio, tu m'as souvent tiré la langue aujourd'hui, mais c'est parce que je lui ai proposé beaucoup d'exercices qui étaient challengeants pour elle. Elle sait et je sais qu'elle va avoir des résultats extraordinaires. Mais sur le moment, c'est pas compliqué, mais c'est pas confortable, ça c'est sûr. Le message que je veux absolument te faire passer aujourd'hui, qui me paraît primordial, c'est que tu peux créer ta chance, tu peux créer ta vie de rêve toute seule. Moi, je trouve que c'est plus facile et surtout que c'est plus rapide avec un ou une coach. Moi, je suis quelqu'un de pressé. Quand je veux des changements, quand ça va pas, je veux des changements rapides. Je ne veux pas attendre un an ou deux avant de pouvoir kiffer ma vie. Je ne voulais pas attendre, j'en pouvais plus. J'avais besoin que ce soit rapide. Et c'est pour ça que j'ai pris plusieurs coachs. Et C'est pour ça que moi, je le suis moi-même, parce que je sais que ça va beaucoup, beaucoup plus vite et qu'il y a des gens qui ont besoin que ça aille vite, que le résultat soit là tout de suite. Mais tu peux créer ta vie de rêve en écoutant des podcasts comme le mien, par exemple, en lisant des livres, en lisant des articles, en t'offrant des formations, des fois accessibles, ou même des formations qui peuvent être, par exemple, proposées dans ton travail, etc. C'est vraiment possible. Tu peux avoir plein d'infos qui vont te permettre de vraiment créer ta vie, changer ta vie, à partir du moment où tu le décides, où c'est toi qui fais, c'est toi l'actrice de ta vie. Si je me retourne sur tout ce que j'ai fait, si je fais un petit résumé, tout ce que j'ai mis en place m'a amené à ma vie de maintenant. Alors, il m'a fallu saisir des opportunités, certes, mais finalement, les opportunités, ça se trouve aussi. Il y a beaucoup d'opportunités que je suis allée chercher. J'ai demandé de l'aide, ça c'est sûr, mais d'une, je suis allée la demander, cette aide. Je suis allée la demander des fois à plusieurs personnes quand j'ai eu des refus, et j'ai accepté les concessions qui allaient parfois avec ces aides et qui n'étaient pas toujours... pratique et confortable. J'ai aussi beaucoup, beaucoup expérimenté et parfois j'ai tenté des choses mais sans savoir du tout où j'allais. J'ai tenté un peu au feeling, un peu à l'intuition. Parfois c'était réussi, parfois c'était raté et quand c'était raté, ben, je réessayais autre chose. Tout ça a apporté le résultat que j'ai maintenant et c'est rien d'autre. Ce n'est pas de la chance, ça ne m'est pas tombé tout cru dans le bec. C'est pas venu comme ça à moi... du jour au lendemain, sans que je fasse rien. Le message que je veux vraiment que tu intègres, c'est que tu as le pouvoir sur ta vie. Tu n'es pas obligé d'attendre, et surtout si tu attends, il ne se passera rien. Si tu attends que ça aille mieux, que tes contraintes changent, il ne se passera rien. Tu n'es pas obligé de subir. Tu peux changer tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne te convient pas dans ta vie. Tu as le pouvoir sur ta vie, sur ton environnement, sur tes pensées. Et c'est en prenant ce pouvoir sur ta vie que tout peut radicalement changer. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter, commenter, mettre des cœurs et des étoiles, partager autour de toi. Tous les retours sont bienvenus pour m'aider à faire connaître ce podcast. Moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout n'oublie pas à quel point tu es merveilleuse.